Amen. Gloire à Dieu. Dieu est vivant. Et nous bénissons le Seigneur parce que oui, Dieu est vivant et il parle. Ce soir, nous l'avons déjà entendu, les frères l'ont dit, il y a un message pour chacun d'entre nous. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons des oreilles. Dieu nous a fait avec des oreilles. Et je pense que ce soir, vous pouvez entendre ce que Dieu a à vous dire. Mais pour entendre ce que Dieu a à nous dire, ce n'est pas seulement une question d'oreille, mais c'est aussi une question de cœur. Et il est important d'ouvrir notre cœur, de savoir faire taire parfois nos raisonnements pour recevoir, recevoir ce que Dieu a à nous dire. Alors ce soir, le titre de mon message, c'est « Liberté, égalité, fraternité ». C'est quelque chose, je pense, que vous connaissez, en français, la devise de la République française. On ne peut pas la contourner, s'en détourner quand on est en France. C'est quelque chose que l'on sait. Et cette déclaration, elle a un fondement dans un article, un des premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme. Vous connaissez cet article. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas si aujourd'hui, actuellement, en France, on vit cela. Et comprenez-moi bien, ce soir, je ne suis pas là du tout pour parler de politique. Je ne suis pas là du tout pour avancer des idées politiques, des pensées qui pourraient permettre des réformes, de nouvelles lois pour faire avancer les choses au niveau du gouvernement. Je ne suis pas là du tout pour ça. Peut-être que vous trouvez cette devise complètement ridicule. Liberté, égalité, fraternité. Peut-être que pour vous, ça ne veut rien dire. En France, c'est ridicule. Et je peux vous comprendre. Et comprenez bien que ce soir, je ne suis pas là du tout pour ça. C'était juste l'introduction. Parce que j'aimerais qu'on partage justement sur ces trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Mais au regard de la parole de Dieu. Au regard de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ce soir, je suis vraiment là pour annoncer la parole de Dieu. Ce que dit la Bible, simplement. Ce que dit la Bible en rapport avec la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, premièrement, la liberté. De quoi sommes-nous libres? Sommes-nous réellement libres? Quand on tape cela sur Internet, on trouve toutes sortes de réponses. Et ce soir, si on faisait l'expérience, je suis sûr aussi qu'on aurait toutes sortes de réponses. Si on se demandait chacun, en particulier, qu'est-ce que la liberté? Quelle est votre définition de la liberté? Pour certains, je suis sûr que la liberté, ça pourrait être ne plus être en compagnie de leur femme. Pour d'autres, la liberté, ce serait peut-être d'avoir un portefeuille bien rempli. Pour d'autres, la liberté, ça peut être de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Voilà, certains, pour eux, c'est ça la liberté, c'est ça la vraie vie. Et peut-être que vous avez votre propre définition de la liberté, mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la liberté? La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Voilà ce qu'il est écrit dans la Bible en rapport avec la liberté. La liberté. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent en parler, plusieurs personnes peuvent la promettre, mais beaucoup sont dans la corruption, beaucoup vivent esclaves de la corruption. Et la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et quand je recherchais sur Internet, j'ai tapé cela, de quoi sommes-nous libres? Et j'ai trouvé toutes sortes de réponses. Il y en a un qui a terminé par conclure, au final on est libre de rien. Mais il y a une réelle liberté que Dieu nous donne et il nous faut la comprendre. Et il y a une personne qui a dit, ça, c'était intéressant je trouvais, dans la pensée, l'homme est libre quand il a su surmonter ses dépendances. L'homme est libre quand il a su surmonter ses dépendances. Et c'est ce que Jésus va dire. Jésus dit dans Jean 8, 34, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Aujourd'hui en France, plusieurs personnes peuvent penser être libres, mais être esclaves du péché. Qu'est-ce que c'est être esclave du péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est simple. C'est, pour donner une image, comme un virus. Vous connaissez les virus médicaux, par exemple? Il peut y avoir toutes sortes de virus. Et un virus, quand il arrive dans un corps, il est tout petit. Il est infime et il s'infiltre sur des molécules, puis par la suite, il va se multiplier, il va se propager, il va créer une infection, une maladie. Et vous savez, les maladies comme la grippe, la varicelle, aussi comme le sida, sont les causes de petits virus. Ces maladies sont les causes de petits virus. Et le virus le plus terrible, le virus qui fait le plus de ravages, c'est le péché. Son but consiste à détruire le respect que devrait avoir tout homme envers Dieu, envers sa volonté. Son but est de détruire cela dans le cœur des hommes, et il consiste à persuader les hommes de vivre leur vie selon leurs propres pulsions, selon leur propre manière de vivre. Je veux vivre ma vie comme je veux, comme je l'entends. Voilà les influences du péché. Le péché consiste à mettre, oui, Dieu à la porte de nos cœurs. Et c'est là le plus grand problème en France. En France, on parle de crise, mais la plus grande des crises, c'est cette crise spirituelle. Beaucoup de personnes sont mal et sont enchaînées, ne sont pas libres du tout, sont esclaves de vices, de passions, de corruption, de mauvaises pensées, à cause du péché. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous soyons réellement libres. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Voilà ce que Dieu veut. Retenez ceci ce soir. Ce que Dieu veut en rapport avec la liberté, c'est que vous soyez, vous ce soir, vous qui entendez ce message, réellement libres. Si donc le Fils c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ vous affranchit. Si donc le Fils vous affranchit, il est question... Quand on parle d'affranchir quelqu'un, de payer le prix, de payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix de votre liberté. Il a payé le prix de ma liberté et il m'a libéré. Oui, je peux le dire, je peux le chanter, je suis réellement libre. Jésus-Christ m'a libéré. Mais il est important de réaliser où est-ce que nous en sommes pour nous ce soir par rapport à la liberté. En France, on parle de liberté. Liberté d'expression, liberté de penser, liberté d'agir, toutes sortes de libertés. Mais on n'entend pas parler d'une liberté de l'âme. Et ce soir, il y a un message d'espoir, un message qui a bouleversé nos vies, nos cœurs, qui nous a réellement libérés, qui a libéré nos âmes. Le seul qui puisse libérer nos âmes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a tout accompli. Pour cela, oui, il a tout accompli. Il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Nous l'avons entendu de par notre frère qui chantait tout à l'heure. Il ne fait exception de personne. Et c'est là le deuxième mot, égalité. Égalité. En France, est-ce que l'on vit une réelle égalité? Je vous laisserai répondre. Mais aux yeux de Dieu, il y a une réelle égalité. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Voilà un verset que les chrétiens connaissent par cœur, car c'est un verset qui nous a profondément touchés. « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il y a un regard général, il a tant aimé le monde. On voit aucune différence, il n'y a personne qui est mis de côté. Ce verset concerne toutes les personnes qui ont existé avant nous, comme toutes les personnes qui existeront après nous. Mais il nous concerne aussi, chacun d'entre nous, personnellement. Dieu nous a tant aimés. Dieu n'a pas simplement aimé le monde. Ce verset nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde, il vous a tant aimé. Et croyez-le, croyez à cet amour qui est réel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il y a cette égalité, il nous aime tous et il veut que nous soyons tous sauvés, que nous ayons tous la vie éternelle. Afin, il ne veut pas que nous périssions, il ne veut pas que nous nous perdions, que notre âme soit perdue en enfer, mais il veut que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons dès à présent et maintenant en relation avec lui, mais pour l'éternité, dans sa présence. Il y a cette égalité. Mais Dieu n'est pas simplement un Dieu qui nous a parlé d'amour. Vous savez, il y a des personnes qui parlent d'amour, mais qui ont une attitude qui n'est pas cohérente avec ce qu'ils disent. Il y a des personnes qui parlent d'amour, qui disent « je t'aime très facilement », qui témoignent de l'amour à leurs proches, tout ça, mais ils ont une attitude qui fait plus de mal que de bien. Il y a une grande incohérence parfois entre les mots et l'attitude. Mais Dieu n'a pas seulement parlé de son amour. Il n'a pas simplement dit qu'il nous aimait tant. Il l'a prouvé. Il a prouvé cet immense amour. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers chacun d'entre nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu a prouvé son amour. Il l'a prouvé. En acte, il a prouvé, il est venu vers nous, il est venu dans ce monde, il est venu dans ce monde en la personne de Jésus-Christ, il est venu vers chacun d'entre nous, il a prouvé cet amour. Et ce verset nous dit, alors, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons parlé du péché, il y a cette égalité aussi par rapport au péché. La Bible nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous sommes tous pécheurs. Tous, à cause du péché, séparés de Dieu, séparés de sa présence. Mais Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort à cause de cela, à cause du péché. Jésus-Christ, le Saint, le Juste, lui qui a été envoyé de Dieu, qui a été, comme nous l'avons lu, ce Fils unique, envoyé par Dieu, afin que nous soyons sauvés, a été crucifié. Crucifié sur une croix. C'est là le prix de notre liberté. Il a payé le prix. Il a porté notre condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix de nos péchés. Je l'ai dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la vérité, voilà ce qui est annoncé dans la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est rempli de bonté pour chacun d'entre nous et il a prouvé. Il manifeste sa grâce aujourd'hui, cette grâce est pour chacun. Dieu est celui qui restaure, Dieu est celui qui relève. Peut-être on peut être abattu, oppressé dans ce monde, rejeté. Complètement découragé, avoir une vie complètement dissolue. Mais Jésus-Christ est celui qui nous donne de vivre, oui, un nouveau départ. Comme nous l'avons chanté, nous pouvons repartir à zéro grâce à Jésus-Christ, avec Dieu pour berger. Revenez à Dieu, venez à lui. Il est celui qui peut vous donner de solides fondements pour bâtir votre vie. Vous ayez de solides fondements pour tenir, justement, face aux épreuves de la vie, face aux difficultés. Oui, les épreuves, il y en a, même pour les chrétiens. Mais la grande différence, c'est que nous les vivons avec Dieu. C'est que nous les traversons avec lui. Il est présent avec nous. Et ça, c'est la grande différence. Dieu est celui qui nous voit tous de la même manière. Il n'en aime pas un plus qu'un autre. On est égaux à ses yeux. Et cet après-midi, ce soir, ce message est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que réservé à une élite. Ce n'est pas réservé que à ceux qui prient 10 heures par jour, qui lisent leur Bible, qui vont à l'église. Non, ce message est pour chacun. Et il y a une égalité parfaite. Dieu ne fait exception de personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous savez, Dieu est bon, il use de patience. Il use de patience envers chacun d'entre nous. Et ce soir, nous sommes encore dans un temps où la patience de Dieu est là. Ce soir, tu as déjà entendu ce message et j'en suis persuadé, je le sais. Tu as déjà entendu ce message et tu es là. Il y a un appel sur ta vie. Dieu t'appelle à venir à lui. Et tu n'es pas dans une obéissance complète et totale, mais Dieu t'appelle à répondre. À répondre ce soir, il use de patience envers toi. Réalise ce soir la patience de Dieu. Dieu ne veut pas que tu périsses. Si tu demeures dans cet état, ton âme n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu. Et il est important que tu sois réconcilié, que tu sois en règle avec Dieu. Il y a ce verset dans la parole, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voilà ce à quoi Dieu veut nous conduire, à la repentance. Oui, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Voilà la manière dont Dieu nous annonce ce qu'il nous faut faire. Il est important de nous repentir, c'est-à-dire de réaliser que nous avons profondément blessé le cœur de Dieu à cause de nos péchés. Il est important de lui demander pardon et de nous détourner de tout ce qui est mauvais. Et de nous tourner vers lui, d'obéir. Dieu vous aime, croyez-le, croyez en Jésus-Christ. Il est venu afin que vous soyez réconciliés. Croyez-le, ça peut peut-être vous dépasser cet amour. Peut-être vous avez du mal à y croire parce que vous avez été blessé. Et dans ce monde, peut-être voilà, à l'amour, vous n'y croyez plus. Mais croyez-le, c'est réel. Cet amour est réel. Il l'a prouvé. Regardez Jésus-Christ à la croix. Et Jésus-Christ a fait cela afin que, comme il est écrit derrière moi, nous soyons réconciliés, réconciliés avec Dieu, afin que nous soyons ses enfants. Et c'est là mon dernier point, c'est là ce que signifie ce mot fraternité. La fraternité nous parle de fratrie, de famille. La fraternité. Il y avait dans cet article, premier article des droits de l'homme, cette règle de vivre dans un esprit de fraternité. Mais avec Dieu, c'est complètement différent. C'est pas un esprit de fraternité. C'est une réelle naissance. Quand on accepte Jésus-Christ dans notre cœur, on naît de nouveau. Et on ne naît pas selon la chair, mais on naît d'une naissance spirituelle, selon Dieu. C'est Dieu qui fait cette œuvre en nous. Et c'est lui qui nous donne d'être ses enfants, d'être appelés ses enfants. Et dans ce monde, je ne connais pas votre vie, votre vécu, mais on peut être rejeté par son père, par ses parents. On peut être mis de côté, abandonné. Comme je le disais, peut-être qu'on a manqué d'amour peut-être que vous avez manqué d'amour. Mais Dieu est celui qui veut vous recueillir. Il y a ce psaume, c'est David qui l'a expérimenté. C'est du vécu, il a pu l'écrire parce qu'il l'a vécu. Psaume 27, verset 10 qui nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » L'Éternel est celui qui veut vous recueillir. Il est notre Père. C'est comme cela qu'il a enseigné ses disciples à se tourner vers lui, comme étant notre Père. C'est une réalité. Il est important de réaliser qu'il y a un choix à faire. Jésus-Christ a parlé de Dieu le Père à des personnes qui pensaient qu'ils étaient sauvés en sécurité. Et Jésus-Christ va leur dire simplement, c'est dans Jean chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Certaines personnes ont rejeté Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a dérangé. Il est la vérité, il a annoncé la vérité et la vérité a dérangé. Ces hommes ont préféré rester dans une apparence de religiosité. Ces hommes ont préféré rester dans l'hypocrisie, ont préféré rester égoïstes. Mais il est important de réaliser dans quel camp nous sommes ce soir. Est-ce que nous avons réellement pour père un Dieu ? Est-ce que nous aimons réellement Jésus-Christ ? Est-ce que nous croyons qu'il est mort pour nous ? Qu'il est mort pour nos péchés? Est-ce que nous l'avons réellement accepté, reçu dans notre cœur? C'est là ce que, en quelque sorte, Jésus a voulu dire à ces hommes. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que nous soyons enfants de Dieu, afin que nous fassions partie de la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, c'est une réalité. L'Église est la famille de Dieu. Est-ce que nous pouvons vivre dans ce lieu, dans cette Église? C'est quelque chose de réel, la famille de Dieu. Et il est vraiment extraordinaire d'en faire partie. C'est quelque chose d'épanouissant quand on est enfant de Dieu. Ce n'est pas une vie de frustration, mais une vie où on est comblé, une vie de bénédiction, une vie où on est justement frères et sœurs. Et on rencontre des gens extraordinaires, merveilleux, dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, on était là, aujourd'hui, entre midi et deux, on pouvait partager ensemble, prier les uns pour les autres, s'encourager, se porter. C'est ça la famille de Dieu. On n'est pas tout seul, on vit pas dans ce monde solitaire. Combien de personnes aujourd'hui sont solitaires, vivent tout seuls, malgré eux? Car on est dans un monde où il y a le règne de l'indifférence. Dans ce monde, beaucoup de gens sont indifférents les uns aux autres, et même dans nos propres familles. Mais la famille de Dieu est quelque chose de réel, croyez-le. Et j'aimerais te dire qu'il y a ta place dans la famille de Dieu. Il y a ta place. Tu as ta place dans la famille de Dieu. Il est important que tu le réalises et que tu viennes à Jésus-Christ simplement, simplement ce soir, que tu lui ouvres ton cœur et que tu répondes à cet appel. Oui, cet appel qu'il te fait afin que tu sois réellement libre. Cet appel qu'il te fait afin de réaliser cette égalité par rapport à l'amour de Dieu. Oui, il a tant aimé le monde, mais il t'a aussi tant aimé personnellement. Il y a cette égalité de l'amour de Dieu. Il y a aussi cette égalité par rapport au péché. Il est important de le réaliser. Et il y a cet appel que Dieu te fait, afin que tu sois son enfant. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Voilà l'appel de Dieu. Voilà l'appel de Dieu pour vous. J'aimerais que l'on se recueille ce soir. Qu'on prenne un temps pour se positionner, réaliser ce message. Seigneur, notre Dieu, notre Père, mon Père, je veux te rendre grâce et te dire toute ma reconnaissance. Oui, pour la liberté. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu es celui qui nous rend réellement libres. C'est une réalité. Tu as libéré nos âmes, mon cœur. Et je sais que ce soir, tu es celui qui veut te manifester encore à une âme qui est là, à un cœur qui n'est pas réellement libre, à un cœur qui est dans l'illusion, à un cœur qui n'a pas fait ce pas de se repentir. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es celui qui manifeste ta grâce, ton amour, ta bonté. Tu uses de patience envers chacun d'entre nous. Tu es celui qui nous dit la vérité, qui nous met face à la vérité, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons heureux, afin que nous t'appartenions, que nous soyons réellement en sécurité, et ce pour l'éternité. Seigneur mon Dieu, je te prie de parler au cœur, encore dans ces moments, et d'éclairer, que ta lumière brille, oui Seigneur, qu'elle chasse les ténèbres. Viens Seigneur, relever, viens Seigneur, fortifier. Tu sais ceux qui sont abattus, découragés, blessés, brisés. Tu es celui qui manifeste ta grâce, qui renvoie libre les opprimés, et qui relève. Éternel, je t'en supplie, étends ta main dans ces moments. Au nom de Jésus. Amen.